Mesdames et messieurs les membres de la magistrature et du barreau, chers collègues, mesdames et messieurs, la pizza est un légume. C'est en tout cas en ce sens qu'on a interprété une récente décision du Congrès des États-Unis d'Amérique qui a décidé de maintenir le principe selon lequel une unité de sauce tomate sur une pizza équivalait environ à 4 unités de légumes bruts. C'est une décision apparemment anecdotique, mais qui en réalité confirme un certain nombre de caractéristiques du droit contemporain. La première caractéristique, c'est que la vérité juridique est bien entendu une vérité construite et c'est une vérité politique. Le fait qu'il s'agisse d'une vérité construite apparaît ici de manière presque caricaturale, car peut-on dire qu'une unité de sauce tomate sur une pizza équivaut objectivement à 5 et non pas à 4, 6 ou une unité de légumes bruts. Il s'agit évidemment d'un choix. Et c'est un choix politique. Pour le comprendre, il faut évidemment renvoyer au-delà de ce côté un petit peu anecdotique à la problématique des cantines scolaires et de l'alimentation aux États-Unis dans les cantines scolaires. On sait que l'obésité touche plus de 15% des enfants aux États-Unis et que une bonne part des calories, plus de 40%, sont consommées dans les cantines scolaires. C'est pourquoi l'administration Obama avait proposé qu'on modifie la réglementation de manière à ce qu'une unité de sauce tomate sur une pizza équivale non plus à 5 unités de fruits et légumes, mais plutôt à une unité, ce qui aurait ainsi amené la fabrication de la pizza a intégré davantage de légumes puisque le remboursement public de l'alimentation dans les cantines scolaires dépend d'un certain taux de légumes dans l'alimentation. Alors, comme je l'ai dit, le Congrès n'a pas suivi cette proposition et différents arguments ont été avancés pour justifier cette vérité politique selon laquelle une unité de sauce tomate équivaut à 5 unités de fruits de légumes, pardon, aux États-Unis. D'abord, des arguments de santé publique, car sans doute inspirés en partie par des études fournies par des lobbies de l'industrie des surgelés, puisque les pizzas telles qu'elles sont délivrées sont des pizzas surgelées. L'argument a été que finalement la pizza est très riche et très sur le plan nutritif, notamment avec des apports en calcium. Donc il y avait des arguments relatifs à la santé publique. Il y avait aussi des arguments relatifs finalement à la liberté individuelle. Est-ce que c'est le rôle de l'État de s'ingérer au cœur même de la sphère privée, à savoir le goût? Est-ce que c'est son rôle donc d'empêcher les petits-enfants américains d'apprécier la pizza? Est-ce qu'on doit leur imposer davantage de légumes dans la pizza au risque qu'ils s'en détournent? Le même débat a d'ailleurs été mené à propos des pommes de terre frites avec le même type d'argument. Et des arguments aussi de type économique, car reconfigurer toutes les pizzas à destination des cantines aux États-Unis aurait impliqué, bien entendu, des coûts considérables, non seulement à la base de reconfiguration de la pizza qui est formatée actuellement d'une certaine manière, mais aussi plus généralement à long terme, ça aurait, selon les calculs, entraîné un coût supplémentaire de la pizza de plusieurs cents par unité. Et donc ainsi menacer les entreprises, menacer l'emploi, etc. Donc on voit bien ici que la vérité est une vérité politique, c'est une vérité relative, c'est une vérité qui peut être modifiée en fonction des rapports de force. On a rappelé à cette occasion que dans les années 80, l'administration Reagan avait souhaité que le ketchup soit considéré comme un légume avec le même type d'argument. Ça n'avait pas été admis, mais qui sait si demain ce ne sera pas admis par le Congrès et si on ne va pas assister à une modification de l'appréciation de la pizza en termes de qualification de légumes. Alors, le deuxième enseignement que cette décision peut nous apporter, c'est par rapport au rôle du juge. Car en effet, on a ici la formulation par le législateur d'une vérité juridique. La pizza est un légume, il ne le dit évidemment pas comme ça. Traditionnellement, le juge voit la légitimité de sa décision reposer sur deux fondements. D'une part, l'interprétation de la loi conformément à la volonté du législateur, Mais ensuite, et c'est là normalement que sa marge de manœuvre est beaucoup plus étendue, elle n'apparaît pas, en tout cas a priori limitée, l'établissement d'une vérité objective de manière à confronter la loi au fait de la cause. Alors bien entendu, le législateur est toujours intervenu dans l'élaboration même de la vérité par le juge via les règles de preuve, des règles de procédure, mais aussi des présomptions, des fictions, avec comme conséquence que cette vérité établie par le juge, cette vérité judiciaire, donc, n'a pas uniquement comme objectif ou comme valeur le reflet par rapport à une réalité objective, mais intègre aussi d'autres valeurs. Et on sait que dans les règles de preuve, la protection de l'individu, par exemple, intervient avec comme conséquence, par exemple, l'inadmissibilité de preuves obtenues en violation de ses droits individuels, qu'il s'agisse de perquisitions irrégulières ou, plus grave, d'actes de torture. Mais traditionnellement, en tout cas, le législateur a plutôt tendance à réglementer cette procédure, le droit de la preuve donc, mais à laisser au juge le soin de se prononcer sur la vérité en tant que telle, sur le fond, pourrait-on dire, de la vérité. Pour rester dans le domaine de la tomate, en 1893, la Cour suprême des États-Unis a ainsi considéré que la tomate était un légume, alors qu'un producteur disait, sur la base d'études scientifiques, livré notamment par les botanistes, que la tomate était bien entendu un fruit. Et d'ailleurs, le légume n'est-il pas une catégorie contestée par les botanistes, puisqu'il recouvre des choses très très différentes, comme les racines, les champignons, les plantes, les algues. Par conséquent, disait ce producteur, la tomate est un fruit. Alors son argumentation n'était pas tout à fait désintéressée, puisque seuls les légumes étaient soumis à l'époque à certains droits de douane, et donc cette qualification avait un enjeu tout à fait pratique, et la Cour suprême des États-Unis a estimé que la tomate, même si sur le plan des botanistes, en tout cas, elle pouvait peut-être être considérée comme un fruit, elle devait être ici considérée, pour ce qui concerne la loi, comme un légume. Ici encore, on voit que la vérité juridique est construite, qu'elle est politique. D'ailleurs, la Commission européenne, par contre, en 2001, a considéré que la tomate était un fruit pour rendre applicable ainsi la réglementation sur les confitures. Donc on voit bien que tout ça est assez relatif. On voit dans l'exemple de la Cour suprême que, traditionnellement, c'est plutôt le juge qui a là, en tout cas, un certain pouvoir. Avec la décision du Congrès qui a été adoptée il y a quelques jours, là, on voit bien que le juge voit en quelque sorte sa sphère de compétence quelque peu entravée ou limitée a priori par le législateur. Le juge doit donc s'adapter à cette nouvelle configuration, et c'est à ce questionnement-là que l'on va donc consacrer ce colloque, qui s'inscrit de manière plus large, comme Barbara Truffin l'a dit, dans le cadre d'une recherche sur la recomposition du rôle du juge dans le droit contemporain. Alors on ne va pas tellement, je pense, je ne sais pas exactement ce que vont dire tous mes collègues, parler de pizza et de tomates, on va peut-être parler de choses qui sont plus connues, en tout cas plus fondamentales, plus classiques. Par exemple, la tradition ou la très ancienne pratique pour le droit d'énoncer certaines vérités dans des législations ou dans le droit et de pénaliser sa remise en cause, qu'on a pu observer à la fois il y a plusieurs siècles par rapport à des questions comme la cosmologie, ou plus récemment dans la problématique du négationnisme, où finalement sur le plan des principes, il s'agit chaque fois de pénaliser la remise en cause de vérités qui sont énoncées dans la norme juridique. Et ça fera l'objet de deux sessions de ce colloque, une qui va commencer dans quelques instants et une autre qui aura lieu demain matin. Dans certains cas, ce qu'on verra, c'est qu'au-delà du législateur qui peut en effet intervenir dans la formalisation légale de certaines vérités, le juge est directement saisi pour que l'on tente de lui-même lui faire formuler une vérité politique, soit à l'occasion de procès particuliers qui sont supposés a priori ne mettre en cause que des cas tout à fait spécifiques, et c'est la session de cet après-midi qui sera consacrée à ce thème. Comment, au-delà d'une vérité singulière, on peut, via des jugements, aboutir parfois à l'énoncé de vérités beaucoup plus larges, de vérités politiques. Et puis, dans certains cas, le citoyen lui-même va se parer, en quelque sorte, de la légitimité du juge, se présenter comme un juge et établir des tribunaux populaire, pour ensuite, là aussi, prononcer des vérités qui vont dépasser le cas particulier et qui vont avoir une portée politique dans le sens où il s'agira de se prononcer de manière donc plus fondamentale sur la nature d'un régime. Ce thème sera traité lors de la dernière session de ce colloque demain après-midi. Alors sur le plan de la méthode, enfin, de manière très très brève, peut-être deux précisions. D'une part, la volonté générale a été ici de partir de l'empirique, de cas particuliers et de procéder par induction. Donc on va, lors de ce colloque, étudier toute une série de procès, de cas particuliers pour montrer comment le juge est amené à gérer cette problématique des rapports entre une vérité, disons, particulière et une vérité politique. Et deuxièmement, on a aussi voulu laisser une large part à la discussion, ce qui explique la structuration de chaque session, avec d'abord donc des exposés comme je l'ai dit, plutôt de cas particuliers, et ensuite une discussion qui sera animée au départ par deux discutants qui n'auront pas nécessairement la même opinion. C'était là, en tout cas, une idée qui avait été à la base de l'organisation de ce colloque, et puis ensuite, bien entendu, par un débat au cours duquel chacun et chacune d'entre vous pourra, bien entendu, intervenir. Voilà, je ne vais pas être plus long, je vous remercie, et je vais donc laisser la place à la première session de ce colloque.